Previously.
Il binge-watchait déjà avant que ce soit cool. Alain Carazé revient pour vous sur des séries cultes. Au menu aujourd'hui, l'incroyable Hulk.
Retrouvez-moi tous les mercredis dans Previously, le podcast de Télé-Loisirs, pour plonger dans une série phare que non seulement je vous raconte, mais dont je vous livre aussi des coulisses. Les séries télé de super-héros, ce n'est pas ce qui manque. Non, je vous parle pas des films de cinéma sur les super-héros. Bon, même s'il paraît que ce n'est pas du cinéma. Mais enfin bon, non, je vous parle de séries télé. Donc, si je vous demande quelle est pour vous la meilleure série télé de super-héros, vous me citerez peut-être Umbrella Academy, The Tick, Agent of S.H.I.E.L.D., Krypton, Gotham, Runaways, Les Defenders avec Daredevil ou le Arrowverse avec Flash, etc. Vous me direz peut-être que des séries qui portent un regard différent, décalé et quelque peu cynique sur les super slips vous séduisent bien plus. Des séries comme Légion, comme The Boys, comme Doom Patrol ou comme actuellement Watchmen qui transcendent complètement le genre. Et vous auriez raison, parce que Légion est purement et simplement stupéfiante, The Boys met très très mal à l'aise et c'est salutaire, et Doom Patrol est la plus insolente de toutes. Watchmen, bah c'est tout simplement un chef-d'œuvre. Donc bon, mais il y a de quoi faire, et pour tous les goûts. Mais si je vous dis qu'une des meilleures, une des plus rigoureuses, une des plus ambitieuses, une des séries les plus fédératrices, c'est l'incroyable Hulk. Là, vous me dites des preuves. Eh bien, à votre service. Alors, revenons en arrière. En fait, bon, il y a toujours eu des séries télé de super-héros, mais elles se dissimulaient bien, elles n'avaient pas le choix. Dans les années 60 et 70, le nombre de diffuseurs aux États-Unis est assez réduit. Il y a trois grands networks, une myriade de chaînes locales, bon peut-être, mais seulement trois grands networks. C'est eux seuls qui sont capables d'investir des moyens financiers pour commander les fictions des séries télé qui composeront leur prime time. Et ce prime time, à cette époque, eh bien, il est obligatoirement généraliste. Ça veut dire que tout le monde peut et doit, enfin potentiellement, se retrouver devant le petit écran, ensemble, chacun doit se sentir concerné. Donc, vous comprenez qu'on ne peut pas faire des séries uniquement pour les jeunes, des séries uniquement pour les ados, des séries uniquement pour les adultes, non. Les séries, elles doivent avoir assez d'ingrédients pour séduire tous les membres de la famille, les parents, les grands-parents et les enfants. Et les super-héros des comics, eh ben, ils sont considérés spécifiquement comme une distraction pour les enfants, voire limite les adolescents, mais en tout cas pas les adultes. Les adultes, ils ne vont pas prendre les super-héros au sérieux. Les temps ont heureusement changé, les générations sont passées, les contenus ont changé aussi. Mais en tout cas, si vous proposiez un super-héros à la télé, celui-ci ne pouvait pas uniquement séduire les lecteurs de comics ou les tout jeunes, mais aussi, et c'est le plus difficile, il devait séduire les autres. Alors, comment les créateurs de séries télé ont-ils fait ? Eh bien, c'est simple. Ils ont injecté différents niveaux de lecture. Par exemple, quand ABC a décidé de faire un Batman en 1966, le producteur William Dozier en a fait une parodie, histoire de faire rire des situations outrancières, des dialogues ridicules et du début d'embonpoint de Batman. Mais il a soigné l'action et les gadgets pour que les jeunes, les teenagers, soient rivés devant leur écran quand la Batmobile sort vrombissant de la Batcave. Quand les Anglais ont voulu faire des 4 fantastiques pour le petit écran, ben ils en ont fait des agents secrets au service d'une organisation internationale basée en Suisse. Ils les font opérer sans costume et ils se font appeler les champions. Des super-héros avant l'heure, quoi. Better, stronger, faster. Et quand on veut faire de Steve Austin et de Jamie Summers des super-héros, on les barde de prothèses électroniques et on crée leur super-pouvoir sur des bases scientifiques, la bio-ionique. Anthony Deville, ils deviennent l'homme qui valait 3 milliards et Super Jamie, la Bionic Woman. Et tout ça, soit la parodie, soit le réalisme, eh ben ça marche. 5 saisons de l'homme qui valait 3 milliards, 100 épisodes durant, à partir de 1974. What Bien évidemment, ce succès donne des ailes à d'autres projets qui vont dans l'un ou dans l'autre de ces directions, soit totalement parodiques, soit extrêmement sérieuses, abandonnant le lycra et la science-fiction. C'est Wonder Woman, dès l'année suivante, qui joue ouvertement la carte du second degré et de l'ironie, avec une Linda Carter malicieusement pétillante. Et pour l'adaptation très sérieuse, sans aucun des éléments colorés des comics, ni costumes, ni super-vilains, eh ben, il y a l'homme de l'Atlantide, digne ersatz de Namor, le submarinaire, avec Patrick Duffy et ses doigts palmés et son maillot de bain jaune. Mais le destin de cet homme de l'Atlantide est quand même très différent de celui de Wonder Woman. Car des scénarios assez ineptes coupent la série de tout son public potentiel. C'est aussi d'ailleurs ce qui va arriver avec un motard digne des cascadeurs de l'époque qu'on affuble du nom de Captain America. On lui fait faire deux téléfilms qui ne connurent bien heureusement pas de suite. Et il y a même un autre téléfilm, Exoman, avec un paralysé qui se déplace dans une armure pour combattre le crime. Et c'est ni plus ni moins qu'un plagiat éhonté de Iron Man. Enfin, il y a eu, et oui, il faut bien le mentionner, un Spider-Man produit pour la télévision américaine, mais ça a quand même très mal tourné pour eux. Les effets spéciaux nécessaires pour montrer les exploits de l'homme-araignée sont clairement insuffisants, réduits à leur plus simple expression. Il est impossible de rendre justice au personnage qui est à la fois ridicule dans un collant trop coloré et pas très convaincant en justicier, malgré les efforts de son interprète, un certain Nicolas Hammond. Cette catastrophe dura quand même 14 épisodes. Vous allez me dire, c'est presque 14 épisodes de trop. Il y eut même un Docteur Strange qui ne parvient pas à faire de l'audience malgré le soin apporté au personnage, à l'intrigue et aux effets psychédéliques. Ce très honorable téléfilm ne lança pourtant pas une série. Alors, arrivé à ce stade, on peut peut-être se faire deux réflexions. La première est que Marvel, qui a cédé les droits d'adaptation de plusieurs de ses personnages à la firme de production Universal, n'a pas beaucoup de chance, contrairement à DC, qui fait donc adapter Wonder Woman, fait de Batman un phénomène populaire et décroche un timbal au cinéma avec un Superman magistral de Richard Donner, interprété par Christopher Reeves. Marvel, eux, ils n'ont pas encore de film au cinéma. Dans ce domaine, bon, il faut bien avouer, ils seront vengés quelques décennies plus tard. Hein. Vengés, les Vengeurs, ça y est, vous avez compris. Mais à cette époque, pour la télé, c'est carrément la loose pour Marvel. Non seulement leur Spider-Man, leur Captain America et leur Doctor Strange sont au mieux des échecs, au pire des catastrophes, qui ridiculisent le personnage d'origine et entament durablement son image, mais en plus, ils ont fait faire des dessins animés extrêmement bas de gamme, où c'est même carrément les dessins des comics qui sont carrément dupliqués et qui bougent légèrement devant la caméra pour faire croire que c'est animé. En fait, ça l'est pas. Bref, c'est une catastrophe. L'autre constatation, c'est qu'il ne suffit pas de reprendre un personnage déjà existant. Il faut un vrai créateur à la production, quelqu'un qui adapte le personnage et qui ait un point de vue, comme dans, d'ailleurs, n'importe quelle série et pour n'importe quelle adaptation. Parce que si le téléfilm Docteur Strange est artistiquement assez réussi, ben c'est parce que c'était Fil de Guerre aux commandes. Fil de Guerre, c'est l'homme des têtes brûlées de Simon et Simon et quelques années plus tard de la cinquième dimension qu'il a conçue et écrite. Et les créateurs télé qui ont des points de vue, comme lui, ben ça ne manque pas. Tenez, on va dire, tiens, au hasard, Kenneth Johnson. Ouais, alors c'est pas tout à fait le hasard. Hein. C'est un amoureux de la science-fiction. Il a été nourri pendant son enfance par des œuvres de Ray Bradbury, Aldous Huxley et Arthur C. Clarke. Et appuyé par son copain, Steven Bochco, il va se lancer dans l'écriture pour la télé, sans rien perdre de ses idées et de son point de vue. Il a fait ses classes dans des séries policières. Il va ensuite devenir le scénariste en chef, producteur, en d'autres termes, de L'Homme qui valait 3 milliards. Tiens, comme on le retrouve celui-là. Et sur cette série, il va humaniser le personnage de Steve Austin. Il y a du boulot, hein. En créant sa fiancée, Jamie Summers, et en la rendant, elle aussi, bio-ionique. Le personnage de Jamie Summers est tellement populaire, son double épisode est si émouvant, qu'elle va avoir droit à sa propre série, Super Jamie, créée et écrite par Kenneth Johnson lui-même. Et il va tellement injecter d'émotion dans Super Jamie, bah que la série devient bien plus intéressante que son modèle masculin. Et dans cela, il faut bien avouer, par Lindsay Wagner, qui a une palette d'expressions, va dire gentiment, de jeu, quoi, un petit peu plus grande que l'Imagers. De son côté, Universal ne sait pas quoi faire avec les personnages de la Marvel qui lui restent sur le dos. La Torche Humaine et l'incroyable Hulk. Alors, pour la Torche Humaine, c'est non, hein, parce que c'est non. Parce que non seulement ça serait inimaginable en termes d'effets spéciaux, mais en plus, le risque est que cela incite des enfants à se faire brûler vif pour se transformer en véritable Torche Humaine. Non, mais je suis sérieux en disant ça. Hein. Par contre, Hulk, ah, là, c'est pas bête. Et la suite, c'est Kenneth Johnson en personne qui va vous la raconter.
Frank Price, qui était à la tête d'Universal Television, m'a demandé lequel des héros de la Marvel je souhaitais reprendre. Je suis sorti de son bureau en hurlant « Aucun !» J'avais obtenu un bon succès en créant Super Jimmy et mon travail sur L'Homme qui valait 3 milliards a permis à la série d'être pour la première fois dans les 10 meilleures audiences. Mais je ne voulais pas qu'on me catégorise comme faisant de la science-fiction et des super-héros. Donc j'ai dit à Frank « Non, une minute, je vaux mieux que ça. » J'allais vraiment lui dire non, que je voulais surtout ne pas être impliqué dans un quelconque personnage avec un drôle de costume. J'avais beaucoup de mal avec des choses du genre Captain Marvel. Mais à l'époque, je lisais Les Misérables. Et j'avais en tête l'idée de Jean Valjean, de Javert et du fugitif. Et je me suis dit, attends une seconde, il y a peut-être un moyen de prendre ce personnage ridicule qui s'appelle l'Incroyable Hulk et d'en faire plus qu'un comic book. De lui donner une profondeur, une approche plus psychologique, et d'emprunter à Victor Hugo, à Robert Louis Stevenson, et de faire du personnage un anti-héros, dont le seul but était de conclure la série, quoi. En trouvant un remède à sa situation. Ça intriguait. The Incredible Hulk, l'incroyable Hulk, qu'est-ce que c'est ? L'incroyable Hulk est une des toutes premières créations super-héroïques du duo formé par Stan Lee et Jack Kirby. Ils venaient à peine de lancer les 4 Fantastiques, le succès était ni plus ni moins que colossal, et dans ce groupe de super-héros, il y avait un personnage, la Chose, qui était extrêmement charismatique, tragique et pathétique. C'était un monstre. De plus, avant de faire des super-héros, Stan Lee écrivait de courtes histoires mettant en scène des créatures monstrueuses qui menaçaient le monde. Ils vont donc s'inspirer du Dr. Jekyll et Mr. Hyde pour créer un monstre qui, en fait, est l'incarnation d'un humain. Exposé à une dose massive de radiation dans le but de sauver le jeune Rick Jones, le docteur Bruce Banner non seulement survit, mais se transforme en monstre gris qui casse tout sur son passage. Moi, j'ai bien dit gris. En mai 1962, le lancement donc de l'incroyable Hulk en comics n'est pas très remarqué. Il va mettre beaucoup de temps et va nécessiter beaucoup de modifications pour s'imposer. Par exemple, de gris, il va passer à vert. De monstre, il passe à brut. De muet, il parle. Il devient un personnage majeur, membre original des Vengeurs, au moment de leur formation. Hulk est donc maintenant un héros surpuissant, mais un peu simplet, qu'on tente d'arrêter, alors qu'il ne fait rien de mal, en fait, mais il est forcé de se défendre contre des super-vilains ou contre des militaires qui veulent véritablement le stopper et le retenir prisonnier. Et Bruce Banner se retrouve en short une fois la transformation achevée. Pas étonnant donc que Kenneth Johnson voit en ce personnage le reflet des créations classiques de Robert Louis Stevenson ou même de Mary Shelley et de son monstre de Frankenstein, un monstre incompris, traqué par les villageois, mais plus maladroit que meurtrier. Le journaliste spécialisé dans les comics, Xavier Fournier, nous révèle d'ailleurs que Jack Kirby, le dessinateur et co-auteur avec Stan Lee, s'est inspiré du maquillage de la créature de Frankenstein, interprété par Boris Karloff, pour illustrer le personnage de Hulk. Mais l'inspiration majeure de Kenneth Johnson pour la création de la version télé de ce personnage de comics, c'est comme il vient de nous le dire, Victor Hugo et son Jean Valjean. Personnage traqué, tragique, et c'est aussi la base d'une autre série qui a fait ses preuves une décennie plus tôt à la télévision américaine, Le Fugitif. Le format de Fugitif, absolument révolutionnaire, mélange un suspense à suivre et une histoire par épisode. Richard Kimball doit fuir la police et principalement le lieutenant Gérard, car il est soupçonné du meurtre de sa femme. Dans chaque ville où il tente de se cacher, il va tomber sur une personne dans le besoin. Il va sacrifier sa propre sécurité pour l'aider à surmonter son problème. Puis il partira dans une autre ville de peur d'être retrouvé. Phénoménale, la série connaît 4 saisons. De 1963 à 1967, elle fut non seulement adaptée au cinéma, remakée en 2000, encore en 2020, et elle imposa ce format sur d'autres séries. On a un homme qui est condamné, qui fuit la mort dans Match contre la vie,
On a un homme qui est traqué par les extraterrestres avec les envahisseurs. On a un homme qui fuit son pays car il a assassiné un de ses maîtres à penser. C'est Kwai Chun Ken dans Kung Fu. L'homme qui a un sang qui entraîne l'immunité à toutes les maladies et qui fuit ceux qui veulent, bah, littéralement le saigner à blanc, c'est l'immortel. Il y a l'extraterrestre qui fuit sa planète, c'est Starman. Le jeune garçon qui se transforme en loup-garou et fuit ceux qui veulent l'exterminer dans Werewolf. Et il y a même une version chien avec une série qui s'appelait Joe le Fugitif. Non, non, mais sérieux. Donc ce format peut parfaitement convenir au drame de Bruce Banner, qui fuit la malédiction de sa transformation qu'il ne peut pas contrôler. Et il lui faut une raison pour fuir. Hulk aurait causé la mort de deux personnes, Helen Marx et lui-même, le docteur Banner. Donc non, enfin, tout le monde croit qu'il a causé la mort du docteur Banner. Pour la série, il lui faut un Javert, un lieutenant Gérard, un némésis contre ce fugitif. Il s'appellera Maggie. Il est journaliste, il a vu Hulk, il est persuadé que c'est le monstre qui a causé la mort de ces deux personnes. Mais Kelly Johnson va surtout insister sur le côté réaliste de la future série. Pas de super-vilain, pas de Wendigo, pas d'abomination contre Hulk, et Hulk ne parle pas. Il ne s'exprime pas autrement que par des grognements. Je vais pas vous le faire, mais croyez-moi sur parole. S'il parlait comme dans les comics, ça serait franchement grotesque. Parce que dans le comics, c'est Hulk smash, des trucs comme ça. Enfin bon, là, à la télé, ça passe pas bien. Hulk n'est plus invulnérable aux balles. Il ne va pas vivre des aventures fantastiques dans l'espace ou face à des menaces extraterrestres. Dans la grande tradition de toutes les séries de ce genre qui précèdent, Kenneth Johnson voulait donc faire la série que les adultes allaient regarder pour l'aspect psychologique du personnage, autant que les enfants pour le Hulk. Le week-end de Pâques 1977, Kenneth Johnson s'assoit face à sa machine à écrire et il passe 12 heures marathon à écrire les 43 pages du téléfilm d'un coup. Il était passionné par les possibilités psychologiques du personnage de Banner, qu'il va rebaptiser David plutôt que Bruce. Pour sa future série, Kenneth Johnson a avant tout besoin d'une vedette. Quelqu'un qui donnera de la crédibilité à l'histoire, de la puissance et du sérieux au personnage. Il va donc proposer la série à un acteur déjà bien connu, Bill Bixby. Bill Bixby est devenu une star de la télévision grâce à deux comédies qui ont, des années durant, forgé son personnage sympathique et bienveillant. My Favorite Martian, mon martien favori, de 1963 à 1966, et The Courtship of Eddie's Father, de 1969 à 1972. Dans la première sitcom, Bill Bixby héberge un martien naïf et facétieux dont il va protéger l'identité. Dans la deuxième, il est un jeune veuf, Tom Corbett, qui éduque son fils Eddie. Il a ensuite été magicien-enquêteur dans une courte série qui, comme on dit très pudiquement, ne trouva pas son public. Elle s'est appelée Le Magicien, et donc, d'incarner un personnage de bande dessinée ne devrait pas être un problème pour lui. Ah ben non. Ben non, parce que, entre-temps, après ses productions sympathiques et de pure distraction, Bill Bixby a franchi une étape, en jouant dans Le Riche et le Pauvre. Et pour cela, il est nominé aux Emmy Awards. Or, Rich Man Poor Man, Le Riche et le Pauvre, d'après Irwin Shaw, est devenu célèbre, non seulement pour son succès phénoménal, pour ses récompenses, et surtout pour avoir initié un format, le format dit de la mini-série, une série dont le nombre d'heures est clairement établi depuis le début. De plus, Bill Bixby souhaite dorénavant s'orienter aussi vers la réalisation. Et d'ailleurs, il sera en 2012 le réalisateur attitré de la sitcom Blossom, Petite Fleur. Donc, quand Bill Bixby reçoit le script de Kenneth Johnson, il est extrêmement récalcitrant. C'est vrai que, enfin, je sais pas, vous recevez un script marqué « L'incroyable Hulk », vous n'allez pas vous dire « Ah, c'est pour moi !» Enfin ouais, tout de suite, c'est quand même un peu rédhibitoire. Jusqu'au moment où il va le lire. Et là, il capte totalement ce que Johnson veut faire. Il comprend la dimension tragique et humaine du personnage, sa dualité. Bref, il est d'accord. Avec une personnalité comme Bill Bixby à bord du projet, le téléfilm initial pouvait donc être validé par la chaîne CBS. Reste à trouver celui qui sera l'alter ego de Banner, une fois qu'il se met en colère, celui qui incarnera le monstre, parce qu'à l'époque, il n'était pas question que ça soit des images de synthèse. L'interprète initial de Hulk aurait dû être Peter Lupus, le Willy Armitage qui, cette année durant, a appris à jouer des rôles de plus en plus intéressants dans Mission Impossible. Et d'ailleurs, il avait déjà joué dans des péplums. Mais Peter Lupus demandait 20 000 dollars par épisode. Bon, bah ça, bien sûr, ça n'a pas été accepté. Ensuite, c'est Richard Kiel qui a décroché le rôle. Richard Kiel, qui deviendra l'année suivante Jaws dans les James Bond, et celui qui a la mâchoire là, pas possible, c'est en fait un excellent acteur, mais il n'avait pas le physique du rôle. Après quelques jours de tournage, non seulement les contraintes du rôle, d'être peint en vert, l'ennuyaient profondément, mais son physique ne correspondait absolument pas au Hulk qu'on pouvait imaginer. Ben, il a donc été remercié, et au final, lui-même en était assez content. En quête de Hulk, Kenneth Johnson va donc essayer de contacter des culturistes. Et le premier culturiste sur lequel il tombe, c'est Arnold Schwarzenegger. Non, mais sérieux, hein. Évidemment, Arnold Schwarzenegger était déjà devenu très connu pour le film Pumping Iron, sauf qu'il est trop petit pour être Hulk. Alors, il va conseiller à Kenneth Johnson de prendre son copain, son comparse dans Pumping Iron, un certain Lou Ferrigno. Par contre, Lou, c'est pas un acteur. Et ça, c'est problématique pour Kenneth Johnson, parce qu'il voudrait vraiment un acteur pour incarner Hulk. Mais Lou a la bonne taille, le bon physique, et très enthousiaste, il a une réelle volonté de bien faire. Hulk était son personnage favori quand il lisait des comics. Le tournage du téléfilm pilote reprend donc avec Lou Ferrigno. Il refait ses scènes, et c'est lors de la scène finale du téléfilm, quand Hulk est confronté à la mort d'Elena, dans les bras de Hulk donc, que tout le monde est convaincu que Ferrigno peut jouer et laisser transparaître l'homme sous le monstre. Sauf qu'il y a un obstacle, un tout petit obstacle. Lou Ferrigno est sourd. Peu de temps après sa naissance, il a perdu 85% de son ouïe. Il travaille donc avec un sonotone. Au début, ce sonotone n'était pas fameux. Un assistant d'ailleurs devait lui donner le top départ en lui tapotant hors champ la jambe ou le bras. Par la suite, avec ses cachets, il acquiert un modèle un peu plus perfectionné, mais au final, ce problème a quand même été vite levé. Par contre, la voix de Hulk dans la série, parce qu'il dit quand même des trucs, il grogne quoi. Les grognements ne sont pas ceux de Lou Ferrigno, ce sont ceux de Ted Cassidy. Ted Cassidy, c'est Lurch de la famille Adams. Et c'est aussi Ted Cassidy qu'on entend dans le générique début, c'est lui qui fait la voix du commentaire dans la version originale. The creature is driven by rage and pursued by an investigative reporter. Mr. McGee, don't make me angry. Lou Ferrigno devait subir 2 heures et demie de maquillage pour être peint en vert et avoir les prothèses et perruques nécessaires à sa transformation en Hulk. Il devait venir à 4h du matin, alors que les autres arrivaient sur le tournage à 9h. Et le maquillage a été créé par Werner Kepler, un grand monsieur qui a créé dans les années 40 les maquillages des grands monstres universels comme la créature de Frankenstein. D'ailleurs, si vous regardez bien la série qui est maintenant disponible en Blu-ray entièrement remasterisé, donc ça se voit bien, le maquillage a évolué. Après le premier téléfilm, le look de Hulk a été un peu adouci et il fait plus créature que monstre, surtout avec le front et la perruque qui ont été changés. Le maquillage a été modifié d'ailleurs en cours de production, vers le milieu de la saison 1. Et enfin, au début de la saison 2, le look de Hulk a été définitivement calé et est resté le même jusqu'à la fin de la série. Bill Bixby, lui, en David Banner, échappait aux longues heures de maquillage, sauf pour les scènes de transformation, ce qu'on appelait le Hulk Out, au moment où il se transforme en Hulk. Il porte des lentilles de contact, puis on lui applique le front, on change la couleur de sa peau pour un deuxième plan un petit peu plus verdâtre, puis on le montre avec des cheveux et la perruque verte, et puis c'est terminé pour lui, qui peut reprendre son apparence normale. Il y a cependant un intermédiaire, un autre acteur, un troisième, Rick Drazin, qui est catcheur. Il tient le rôle de mi-Banner, mi-Hulk. C'est lui qu'on voit dans les scènes de transformation quand ils sont à mi-chemin entre les deux, quoi, en fait. Le premier téléfilm, qui est diffusé aux États-Unis en novembre 1977, a été tourné en 18 jours. Pour bien appuyer les références avec la créature de Frankenstein, incomprise et pourchassée, Hulk, dans le cours de ce téléfilm, va rencontrer une petite fille près d'un lac. Sauf que là, il sauve la petite fille, il ne la jette pas dans le lac. Le téléfilm est un carton d'audience et rapporte entre 7 et 8 millions de dollars en Europe, où il est sorti en salle de cinéma. Dont la France d'ailleurs, qui a pu voir ce premier téléfilm dans une grande salle. Pour cela, Kenneth Johnson, le créateur donc de ce téléfilm, réalisateur, a perçu des royalties, ce qui est normal, $6.40. Voilà, c'est $6.40 de royalties sur... peut-être un petit peu à voir le monsieur. Hein, le deuxième téléfilm, en novembre 1977, a été diffusé 24 jours après le premier. Et c'est lors de ce deuxième téléfilm qu'on pose les bases du style de la série, le fameux format dont je vous parlais, le format fugitif de l'homme en fuite. Dans chaque épisode, Banner est confronté à un conflit, à des bandits, à un drame humain. Il se transforme en Hulk deux fois par épisode, la deuxième fois, généralement, pour conclure l'histoire. Le schéma est assez immuable. Pour séduire le public, la première saison accumule les épisodes extrêmement spectaculaires. Hulk se retrouve en plein Times Square, à travers Manhattan. Ferrigno portait d'ailleurs des chaussons, si vous regardez bien, parce qu'il fait froid, et surtout que le sol de New York est jonché de débris de verre. Hulk va se retrouver dans un avion 747. Hulk se retrouve en plein tremblement de terre. Tout cela est possible, non pas grâce à un budget faramineux pour la série, pour faire tout ça, mais grâce à l'usage massif de stock shots, provenant des grands films de la Universal. Jusqu'au jour où la tactique n'a pas du tout plu à un réalisateur, le réalisateur qui n'a pas apprécié de voir ces images sans son autorisation, ni même sans être prévenu. Ce réalisateur s'appelait Steven Spielberg, et il a fait rajouter une clause depuis dans son contrat qu'aucun extrait de ses films ne peut être utilisé sans son accord. L'épisode en question avait pillé purement et simplement son téléfilm Duel. En saison 2, la série, bien établie, s'oriente donc vers le cœur de son histoire, les problèmes sociaux. L'alcoolisme chez les jeunes, la violence dans le sport, le harcèlement, des retardés mentaux, la maltraitance, etc., etc. C'est vraiment ça qui a fait la spécificité et la célébrité et le succès de la série. Nick Correa, le nouveau producteur de la série, raconte que ce sont tous des allégories. Les allégories des problèmes que David doit affronter, des gens avec des bêtes au fond d'eux-mêmes, des côtés sombres. C'est d'ailleurs aussi la même chose avec Banner. Il ne peut pas canaliser sa rage intérieure, ses différents côtés sombres. C'est un aspect qui, malheureusement, ne sera jamais résolu à la fin de la série. Et puis, il y a les épisodes spéciaux, généralement réalisés par Kenneth Johnson lui-même. Mariette, par exemple, qui lui aussi a été exploité en salle en Europe et en France sous le titre « La fiancée de l'incroyable Hulk ». Et d'ailleurs, l'actrice Mariette Hartley a remporté un Emmy Award pour son rôle en 1979. Il y a aussi un autre épisode spécial, Prometheus, écrit et réalisé par Kenneth Johnson, dans lequel on voit Hulk et David Banner coincés en mi-transformation à cause des radiations d'un météorite. Et là, on retrouve l'acteur Rick Dresin, celui qui est le demi-Hulk, qui là, quand même, a un peu plus de temps à l'image. Dans un autre épisode, on apprend qu'il a existé un Hulk préhistorique. Dans un autre épisode encore, et cela tenait à cœur à Lou Ferrigno, il joue lui-même le rôle d'un culturiste sourd, en plus de tenir le rôle de l'incroyable Hulk. Et en guise de clin d'œil, dans certains épisodes, il y a la présence des anciens partenaires de Bill Bixby, Brandon Cruz, qui était son partenaire dans The Courtship of Elise Favre, et Ray Wilson, de My Favorite Martian. Ça dure jusqu'à la saison 4. Mais à la fin, la série est menacée de suppression. Johnson obtient tout de même une saison 5 avec moitié moins d'épisodes. Comme il y avait toujours d'espoir de produire plus de saisons derrière ça, il n'y a pas de fin à la série. Kenneth Johnson, lui, a un regret. Que Hulk ne soit pas rouge. Mais ça peut vous paraître bizarre comme ça parce que Hulk est vert. Eh ben non. Parce que pour Kenneth Johnson, le rouge, c'est la couleur de la colère, de la rage. Ça aurait très bien pu faire passer les idées du personnage qu'il voulait inclure dans la série. Mais étant donné que le Hulk du comics était à l'époque vert, pas question de le changer. La série est donc terminée? C'est la fin de Hulk à la télévision? Pas tout à fait. Parce qu'en 1988, la New World Pictures acquiert les droits de quelques personnages Marvel et tente de relancer Hulk. Bill Bixby, Lou Ferrigno et le scénariste-réalisateur Nick Correa font partie de l'aventure. Mais pas Kenneth Johnson, parce que lui, il est occupé sur V, puis sur Alien Nation. En fait, en réalité, les gens de New World Pictures, ils ont une petite idée derrière la tête. Ils se servent des téléfilms Hulk, bien connus, pour convaincre un diffuseur de lancer des séries dérivées avec des personnages de la Marvel. Donc, dans le premier téléfilm Hulk, il y a Thor, puis il y a Daredevil. Aucun des deux projets ne se fait. Il faut bien avouer que le Thor du premier téléfilm confronté à Hulk, le retour de l'incroyable Hulk, n'est pas très très convaincant. Dans le deuxième téléfilm, le jugement de l'incroyable Hulk, c'est carrément Rex Smith, le Rex Smith de Street Hawk, qui tient le rôle de Daredevil. Un Daredevil avec un masque qui cache ses yeux. Oui, il est aveugle, mais les gens ne le savent pas. Mais quand même, on cache ses yeux, tout ça est très logique. Au final, on va tuer le Hulk dans un troisième téléfilm, en 1990, qui porte le titre de la mort de l'incroyable Hulk. La mort de Bill Bixby en 1993 empêcha un quatrième téléfilm de se faire, un téléfilm qui aurait vu le retour de l'incroyable Hulk, même s'il était mort dans le téléfilm précédent. Parce qu'on est quand même dans le monde des comics, personne ne meurt jamais. On essaya même ensuite de faire un téléfilm She-Hulk, une version féminine de l'incroyable Hulk, avec Mitzi Capture, et c'était même écrit 10 ans avant qu'il n'y ait un comics She-Hulk. Le téléfilm n'est pas finalisé, et même par la suite, un projet de film avec Birgit Nielsen ne se fera pas lui non plus. Hulk, depuis, a eu droit à 2 longs métrages, le premier par Ang Lee, le deuxième par Louis Leterrier, et il fait dorénavant partie du Marvel Cinematic Universe, apparaissant parmi les Avengers. Enfin, je ne sais pas si vous êtes convaincu que l'incroyable Hulk est une des meilleures séries de super-héros de la télévision, mais il y en a un qui a été convaincu, c'est Stan Lee. Le co-créateur du personnage, comme nous, il en reconnaît la qualité. Pascal Pinto lui avait posé la question pour l'émission Destination Série.
Je trouve que la série L'incroyable Hulk est fantastique. Celui qui l'a écrite et produite, Ken Johnson, il a su tirer parti d'un concept qui aurait très bien pu devenir une série ridicule pour les enfants, et il en a fait quelque chose d'intelligent et pour les adultes autant que pour les enfants.
Mais enfin, impossible de terminer sans la musique qui clôt chaque épisode et qui souligne la solitude de David Banner, obligé de fuir de ville en ville. Cette musique, composée et jouée uniquement au piano, est due à Joseph Arnell. Elle est indissociablement liée à l'incroyable Hulk. La semaine prochaine, nous irons à la recherche de quelqu'un qui a heurté un platane après avoir été dans un hôpital. Oui, je sais, c'est pas clair. Mais Éric Judor en personne nous parlera de platane et de H. Ce podcast est à réécouter sur les plateformes Deezer, Podcast Addict et Apple. Where the mountains have the sun.